Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Est-ce que vous me recevez bien dans la chatroom? Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Techni Savoir, salut Sultan, salut Toto Cool. Je vous laisse le temps de vous réveiller en douceur pour me rejoindre. Vous êtes que 11 pour l'instant dans la chatroom. Ce jeudi, je sens qu'il est un peu compliqué. Il fait froid, on a envie de rester sous la couette. Salut Samuel, merci de me confirmer pour le son. Salut Damien, salut JPLand, salut Victor Sbig, salut Thierry, salut Sylvain, salut Amanda, Geoffrey, Christophe, Marc. Bon, mais ça va là, ça se remplit un petit peu. Oui, j'ai vu ton message, Samuel, dans le flipboard. J'ai pas regardé s'il y avait une question, mais hop, je regarde. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas de question, a priori. Salut Philippe, salut Patrick, bienvenue à tous. J'espère que vous avez la forme, que cette semaine se passe bien, malgré le froid qui s'est installé. Jérôme, tu postes avec le compte Naotech. Enfin, remarque, tu peux, hein, sauf que tu te caches derrière le compte Naotech au lieu d'utiliser le compte Jérôme Kenborg. Oups, mauvais compte. Salut Migo, bienvenue à toi. Salut Wilfried. Oui, justement, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Ça devrait te faire plaisir, Wilfried. Salut Ludovic. Alors tout d'abord, je vais quand même remercier nos tipeurs du jour, hein, quand même. Nous commençons le soir, pas tout à fait encore Alain. Laisse-moi juste le temps de remercier les tipeurs du jour. Donc ce sont des personnes qui nous soutiennent depuis 17 ou 16 mois. Donc encore des grands fidèles qui nous soutiennent sur la chaîne via Tipeee et des dons récurrents. Et donc on remercie tout particulièrement Rikagam, Godedge, Medivh, Renton et Note Olivier. Un grand merci à vous cinq. Vous faites partie des tipeurs qui nous permettent de continuer l'aventure, de pouvoir monter des projets pour la chaîne, de pouvoir rémunérer l'humain qui s'investit dans la chaîne. Donc un grand merci à vous cinq et évidemment à toutes les personnes qui nous soutiennent à leur manière, que ce soit avec des moyens financiers, que ce soit avec les liens d'affiliation, que ce soit avec des likes, que ce soit avec le bouche à oreille. Un grand merci à vous. Voilà pour le petit moment remerciement. Merci Samuel pour le partage du lien d'affiliation et pour tous les liens que tu vas partager. Je commence déjà à avoir des travaux. Il est 8 heures et j'ai déjà des coups de marteau. on va y arriver. Oui, d'ailleurs, pour les impatients de Shadow et qui attendaient la possibilité de l'ouverture des prochains comptes Shadow, ben ça y est, c'est disponible. Donc, n'hésitez pas à utiliser le lien, enfin pas le lien, mais le code parrainage de Naotech lorsque vous créez votre compte Shadow. Merci à vous. Et puis, on va quand même parler un petit peu Quoi et de qu'est-ce que nous réserve le jour? Voilà, j'ai du mal à introduire le sommaire là. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, tout simplement? Alors, on va parler crypto-monnaie, hein, de nouveau. C'est un petit peu. Voilà, c'est l'actualité chaude un peu du moment. On en parle beaucoup. Et là, cette fois-ci, on va parler plus particulièrement, pardon, de Coinbase et d'un juge qui a acter une décision et notamment demander à Coinbase, donc la plateforme qui permet notamment, c'est le portefeuille numérique, on va dire, une plateforme qui permet de faire des transactions et d'acheter des bitcoins, enfin, d'acheter des crypto-monnaies, etc. Enfin, certaines crypto-monnaies, pas toutes, mais pas mal, pas mal des plus connues notamment. Et donc, le juge a bien acté qu'il fallait que Coinbase fournisse certaines informations des utilisateurs. Et on verra tous les détails parce que c'est pas. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça n'en a l'air. Et ça sous-entend pas mal de choses aussi pour les crypto-monnaies qui étaient aujourd'hui utilisées, notamment pour l'anonymat hein, que pouvaient fournir les crypto-monnaies. Donc voilà, ça va potentiellement changer la perception des crypto-monnaies. Donc, ça serait intéressant d'en discuter. Puis, on parlera aussi d'Andy Rubin, vous savez, le papa d'Android et le papa d'Essential, qui avait sorti son smartphone récemment et malheureusement qui n'avait pas forcément rencontré le succès attendu ou en tout cas souhaité. Andy Rubin se retire de Essential. Et on n'a pas trop d'informations là-dessus, mais on a quelques suppositions avec notamment une enquête par des journalistes qui ont fait surface de plaintes concernant une ancienne employée de Google, etc., qui serait potentiellement liée au départ d'Andy Rubin. Mais attention, on n'a aucune confirmation. Donc, ce sera des suppositions ici pour cet article. Voilà. Et on verra qu'est-ce que ça veut dire, notamment pour Essential, si Andy Rubin, un peu le porte-parole de la marque, un peu le critère de viabilité de la marque qui a intéressé du coup les investisseurs, se retire. Qu'est-ce que ça veut dire pour Essential, justement. Et puis, on parlera un petit peu de YouTube. Salut Caribou, bienvenue à toi. On parlera de YouTube qui va proposer son alternative aux stories. On n'en peut plus des stories qui sont à toutes les sauces, sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux, etc. Et ben voilà, maintenant, c'est au tour de YouTube de donner un outil pour les producteurs de contenu pour interagir de manière un peu plus informelle, on va dire, sous forme de stories qui auront leur propre nom et des spécificité de comportement d'utilisation. Donc on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure et puis aussi l'arrivée d'une fonctionnalité, une autre fonctionnalité sur YouTube que Jérôme a déjà commencé à tester. J'en parle juste après le sommaire. Et puis on parlera aussi de Snapchat justement, vu qu'on parle des stories. On va d'abord parler de Snapchat qui fait une mise à jour sur la séparation entre les marques et vos amis, ce qui n'était pas forcément le cas pour les stories, puisque les stories aujourd'hui, que ce soit des stories de marque ou de vos amis, se retrouvent un peu au même endroit, sur le même écran. Ça pouvait créer de la confusion. Et bien là, justement, ils ont fait une petite mise à jour, pas si petite que ça, car ça a quand même pas mal d'implications, que ce soit en termes de monétisation de l'app et en usage. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et puis justement, on enchaîne avec Instagram, où on parlera pas mal de petites fonctionnalités potentielles qui pourraient faire leur arrivée sur la plateforme. Alors, en fait, c'est tout un tas de nouvelles petites fonctionnalités qui sont en train d'être testées. Donc, encore rien de sûr pour faire leur arrivée sur Instagram, mais ça serait intéressant d'en parler ensemble quand même. Et j'ai en tête quelques fonctionnalités qui devraient faire plaisir à quelques-uns d'entre vous, mais justement, j'en profiterai pour vous poser la question tout à l'heure. Et puis, on parlera de la fameuse faille dont tout le monde a parlé il y a un ou deux jours. Là, je crois que ça fait deux jours qu'on est au courant, sur macOS High Sierra, qui permet de se créer un compte admin très très facilement si vous avez un accès à un Mac. Avec le nom d'utilisateur root et sans mot de passe. Donc c'était un petit peu flippant. Apple, je pense, n'était pas très très content et ils ont réagi très très vite. Et puis on terminera avec Waze qui s'intéresse aux motards. Waze qui était une application de GPS qui optimisait la conduite, notamment avec des informations sur les bouchons, les ralentissements, etc. Là s'intéresse pour optimiser l'application pour les personnes qui sont à véhicule à deux roues. Donc c'est assez intéressant puisque c'est pas forcément exactement les mêmes contraintes de conduite et c'est tout l'intérêt des motos et des scooter, c'est de pouvoir se faufiler ou de pouvoir utiliser des pistes qui sont plus étroites notamment et qui ne sont pas forcément accessibles aux voitures. Donc ça sera intéressant d'en parler et on clôturera le TechScope sur cette information. Voilà, Gerlando, tu nous dis que tu utilises Waze, tu pourras nous faire un retour d'expérience justement sur l'application. Juste avant de commencer du coup le premier article, petite information, donc YouTube vient d'ouvrir un nouvel onglet dans les applications et sur le site internet pour la communauté et justement donc c'est disponible, attention, sur desktop et sur smartphone. J'ai essayé de l'avoir sur iPad pour vous le montrer, j'ai bien l'onglet, j'ai bien l'onglet, hein. Voilà, j'ai bien l'onglet, mais alors vous ne pouvez pas lire le message, mais les postes de la communauté ne sont pas encore disponibles. Les postes sont pour l'instant uniquement disponibles sur les ordinateurs ainsi que sur la dernière version de l'application YouTube pour les téléphones mobiles, donc pas encore pour tablette. Donc je ne peux pas vous montrer le premier post qu'a fait Jérôme qui justement vous permettra de, enfin de permettra, nous permettra de récolter les questions pour le premier FAQ. Enfin, on retourne un peu sur les FAQ parce que ça fait longtemps. Qu'on ne vous a pas proposé d'endroit pour faire vos questions, pour poser vos questions sur la chaîne, etc. Même si on prend vos questions à la fin de chaque Techscope chaque matin, tout le monde ne regarde pas les Techscopes et on voulait aussi donner la possibilité à ceux qui ne suivent pas les Techscopes chaque matin de pouvoir poser des questions voilà, sur ce qui a trait à la chaîne, tout simplement. Donc je vous encourage, si ça vous intéresse, à vous rendre sur le site internet YouTube ou sur l'application smartphone. Vous allez sur la page Naotech TV. Alors, je ne sais pas si c'est sur le compte Naotech TV ou Naotech Techscope, enfin Naotech Live. Jérôme, tu peux me confirmer sur quelle chaîne tu as mis le post, le vide ton FAQ Naotech, Samuel me confirme que c'est bien sur la chaîne principale Naotech. Donc, je vous encourage à aller voir dans cet onglet. Donc, vous aurez plusieurs onglets, vidéos, etc. Et vous aurez un onglet appelé Communauté. Vous pourrez voir le premier post que Jérôme a posté ce matin. Voilà. Merci à tous. Donc, je vous propose de commencer avec premier article. Et le premier article, c'est notamment une demande, tout simplement, de l'Internal Revenue Service. Donc, c'est un service américain hein, qui permet de traquer les transactions, tout simplement, et notamment de pouvoir appliquer les taxes. Qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement? C'est quoi Naotech? Naotech, c'est une chaîne vidéo qui traite de l'actualité tech, tout simplement, tech, photo et vidéo. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester. Faut dire FAQ et pas FAQ, sinon le jeu de mots ne marche pas. Vite ton FAQ, d'accord, oui, ok, désolé Jérôme, il faut le prononcer d'une certaine manière pour le, pour le jeu de mots. C'est pas un peu chiant un peu, non? Ah, il y a une coupure, désolé, est-ce que vous m'avez, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Moi, j'ai pas de retour comme quoi c'est coupé. Est-ce que vous me recevez maintenant? Est-ce que je suis revenue pour vous? Oui, il n'y a plus rien, coupure, coupure, retour. Oui, revenu. Bon, d'accord. J'ai même pas eu de retour comme quoi c'était. J'ai même pas eu de feedback de la part de YouTube comme quoi il y avait eu une coupure. Donc, ok. Bon, bah, c'est bon. J'enchaîne. Désolée, hein. J'enchaîne. Donc, voilà. On va parler un petit peu de Coinbase avec l'Internal Revenue Service qui a fait une demande tout simplement pour récupérer les données des utilisateurs qui ont fait des transactions, sur la plateforme sur les années 2013, 2014, 2015. Et ils demandaient tout un tas d'informations sur les utilisateurs. Qu'est-ce qui se passe tout simplement? C'est qu'en fait, il y avait une grosse différence entre les utilisateurs qui déclarent leur revenu Bitcoin, enfin en tout cas crypto-monnaie, parce qu'il n'y a pas que Bitcoin, évidemment. Bitcoin, c'est une crypto-monnaie parmi tant d'autres. Et donc, il y a une grosse différence entre le nombre de personnes qui déclarent leurs biens en crypto-monnaie et le nombre d'utilisateurs inscrits qui ont des biens sur Coinbase. Et donc, suite à cette information, et ben, du coup, l'IRS demande à Coinbase de fournir du coup des données des utilisateurs. Et c'est aussi pour éviter l'utilisation frauduleuse de ces crypto-monnaies qui garantissent l'anonymat de toute façon. C'est un des grands intérêts de ces crypto-monnaies, c'est l'anonymat, pouvoir faire des transactions sans être tracé, etc. C'est ce qui a attiré pas mal d'utilisateurs pour ces crypto-monnaies. Et évidemment, ça va attirer également les personnes qui souhaitent l'anonymat, mais pas pour les meilleures raisons. Tout ce qui est trafic, etc. Évidemment, pour toute technologie, il y a l'usage pour des bonnes choses et pour des mauvaises choses. Hein. Pour toute nouvelle technologie, c'est ça aussi l'aspect négatif et positif de toute nouvelle technologie. Et donc, Coinbase, s'ils ont toujours coopéré avec les services et les enquêtes qui sont lancées pour cibler des personnes ou des utilisateurs spécifiques, tu reçois mes messages, Marion. Bah, je vois ton message, Bob Techno, je te confirme. Après, je n'ai peut-être pas vu parce que j'essaye de faire mes articles, mais j'essaye quand même de voir ce que vous dites. Donc je disais, donc voilà, Coinbase a toujours collaboré avec les services pour pouvoir aider et faire progresser les enquêtes. Par contre, il s'élève fortement contre cette récolte de données de masse sur les utilisateurs américains, ce qui va à l'encontre de leurs principes évidemment, du principe aussi des crypto-monnaies et de la liberté de tout un chacun de pouvoir avoir une certaine vie privée sur ce sujet. Donc voilà, donc là il y avait une plainte qui avait été déposée. Donc c'était voilà, donc il y avait un dossier judiciaire hein, qui a été déposé le 17 novembre. Et donc là, le juge a bien acté que donc Coinbase devrait fournir quelques informations. Donc là, il va pas demander à fournir toutes les informations. Alors attendez, je change d'article parce que tous les articles n'ont pas toutes les informations. Donc j'en ai mis plusieurs pour être sûr d'avoir voilà tous les aspects. Donc là, le juge a accordé à l'IRS le droit donc de demander cette récolte d'informations, mais pas toutes les informations demandées par l'IRS, juste certaines, parce qu'il demandait également des communications entre la plateforme et ses utilisateurs. Quand même, enfin, ça allait quand même très très loin dans la qualification des données demandées et le nombre d'utilisateurs ciblés. Donc là, en fait, il demande, en tout cas, le juge a acté, la Cour fédérale de Californie a acté que ça concernerait uniquement les utilisateurs qui ont eu des transactions de plus de 20 000 dollars en une seule année, donc sur 2013, 2014 ou 2015, les utilisateurs qui ont fait des transactions de plus de 20 000 dollars sont ciblés par la demande de récolte d'informations et donc ils vont devoir récolter le nom, la date de naissance, l'adresse, l'identifiant des taxes. Et tous les enregistrements de l'activité associée à leur compte, tout simplement, pour pouvoir voir un peu les mouvements d'argent qui ont été effectués sur le compte. Voilà, et tout ça pour pouvoir être un peu plus transparent avec les transactions. Donc tout ça, ça va évidemment avec ce qu'on a déjà commencé à mentionner, hein, c'est que les crypto-monnaies sont sous le feu des projecteurs, et évidemment, on s'y intéresse de plus en plus, donc on cherche aussi un cadre légal pour pouvoir rendre, enfin pour pouvoir appliquer tout simplement la loi sur ces échanges de crypto-monnaies. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de cadre légal appliqué à ces échanges et à ces crypto-monnaies, ce qui pose pas mal de questions et de problèmes. Et donc là, on essaye de poser quelques fondations. Voilà, donc le souci, c'est qu'en attendant d'avoir un cadre légal clair et défini pour ces crypto-monnaies, eh ben, le gouvernement américain essaye de faire des demandes pour avoir le maximum d'informations, ce qui va à l'encontre de l'internet libre, de l'anonymat, de la vie privée, etc. Et du coup, ça devient de plus en plus critique de pouvoir définir un cadre légal sain afin de protéger à la fois les utilisateurs et de pouvoir donner des outils et rassurer aussi le gouvernement de l'autre côté. Donc c'est vraiment, c'est compliqué quoi. Hein. Il faut comprendre les deux parties aussi. Donc là, on a eu un jugement qui tombe un petit peu entre les deux, mais ce qu'on souhaite empêcher en tout cas, c'est le ciblage, bah justement le manque de ciblage lors de la collecte des données. Là, bon, ça cible quand même tous les utilisateurs qui ont eu des échanges ou des activités de plus de 20 000 dollars sur la plateforme en crypto-monnaie, ce qui représente quand même à peu près 14 355 utilisateurs sur Coinbase. Donc voilà, si vous êtes utilisateur et que vous avez fait des mouvements d'argent supérieurs à 20 000 dollars, voilà. Bon, après, vous n'êtes pas, potentiellement pas américain, donc a priori, vous n'êtes pas ciblé. Mais on sent aujourd'hui que les crypto-monnaies rentrent un petit peu dans le moule et dans des problématiques grand public. Donc évidemment, on s'y intéresse de plus en plus. Ça fait peur aux puissants, une chose qu'ils ne contrôlent pas. Encore une fois, voilà, il y a l'aspect Big Brother dont il faut se méfier, hein, je suis tout à fait d'accord. Puis il y a l'aspect aussi crédibilité, cadre légal, à la fois pour protéger les utilisateurs et pour donner des outils aussi au gouvernement pour mieux appréhender les crypto-monnaies aussi. Donc ça serait bénéfique à tous s'il y avait un cadre légal qui était clairement défini. Mais là, en l'absence de cadre légal clairement défini, chacun essaye de tirer à partie du manque de du manque de ces lois pour pouvoir avoir le plus d'informations possible. C'est là le risque. Donc il faut faire attention. J'espère qu'il y aura des choses qui vont être actées rapidement sur ce sujet. On passe des crypto-monnaies à Android, plus précisément Andy Rubin. Donc vous le connaissez hein, parce que c'est évidemment le papa d'Android. Et le papa de la société Essential. Essential qui avait fait beaucoup parler d'elle et qui avait pas mal teasé, excité un petit peu le monde des smartphones. Pascal, quand je pense que j'en avais acheté à l'époque de La Voix dans la tête sur No Watch, on avait fait un dossier et que j'ai jeté le HD n'y croyant pas. Ah Pascal, avec le taux qui a explosé hier en dépensant les 11 000 dollars, tu dois t'en mordre les doigts. Je compatis. Je rigole, mais en fait, je compatis quand même. Hein. Moi, j'avais mes collègues qui étaient tout excités hier. Bref. On va parler d'Andy Rubin. Qu'est-ce qui se passe pour Andy Rubin? Eh bien, tout simplement, il a annoncé hier qu'il se retirait de son poste de CEO et de fondateur de la société Essential pour raisons personnelles. Donc, pas de détails. Le board a accepté son retrait. Mais ce qui est un petit peu plus étrange, donc là, la raison officielle, c'est raison personnelle. Donc, en gros, on n'a pas d'informations. On ne sait pas pourquoi il se retire. Et c'est plutôt problématique pour Essential parce que Andy Rubin était évidemment la personnalité qui apportait de la crédibilité à la marque, hein, à la fois pour les investisseurs et pour les potentiels consommateurs qui ciblaient évidemment des connaisseurs d'Android. Qui était particulièrement excité du coup par Essential, et le smartphone qui avait été plutôt bien accueilli par la critique mais qui avait manqué le succès grand public, enfin en tout cas commercial, hein, qui n'était pas au rendez-vous. On peut pour ça se rappeler la baisse de prix assez impressionnante qu'il y avait eu alors que le produit était sorti. Le produit est sorti il y a vraiment très peu de temps et il est passé de quelque chose comme 699 dollars à une promo à 499 $ quelques mois après, jusqu'à baisser à 399 $ lors des promos Black Friday et compagnie. Donc ça montre un petit peu quand on brade autant un nouveau produit qu'il y a un problème de vente, de succès des ventes hein, du produit. Donc le fait qu'en plus Andy Rubin se retire de la société, c'est plutôt très inquiétant pour Essential qui a en plus eu des problèmes de livraison du produit. Ils avaient pas mal de promesses en termes de domotique, hein, de maisons connectées et de tout univers connecté, objets connectés, tu sais, autour de ce téléphone qui n'ont pas réussi à délivrer pour l'instant. Sorry Anout, it's a French tech show so I won't speak English. Sorry. Donc voilà, c'est plutôt inquiétant. Et l'autre information qu'on a eue et qui arrive en même temps justement que cette annonce d'Andy Rubin qui se retire de Essential, c'est aussi lundi The Information, donc un journal qui a informé Andy Rubin qu'ils étaient en train de travailler sur une histoire, une enquête sur son départ en 2014. Et il y aurait donc une information comme quoi il y aurait une relation, comment ils appellent le terme le terme, alors excusez-moi, il faut que je retrouve le terme en français pour pas, une enquête pour comportement déplacé envers une autre employée et une relation inappropriée avec une employée qui remonte donc à 2014. À l'époque, Andy Rubin dirigeait la avait était parti de Android pour diriger la section Robotics de Google, qui a malheureusement n'a pas forcément évolué. Et à l'époque, comme il voulait, et à l'époque justement, il avait dit vouloir se séparer de Google pour former sa propre société et lancer sa propre aventure, ensuite Essential, etc. Et en fait, il ne s'agirait pas forcément de ça. Son départ n'aurait pas été forcément motivé par ce choix-là, mais par une potentielle enquête ou en tout cas relation inappropriée avec une autre employée, car en plus chez Google évidemment il est interdit d'avoir une relation entre deux employés dans la même section qui n'a pas été signalée à Google, etc. Voilà, donc il y a des problèmes de connexion, j'ai l'impression ce matin. Je m'en excuse, moi j'ai pas du tout d'informations de la part de YouTube, il me dit pas que j'ai de problème de connexion de mon côté. Beaucoup de coupures, galère ce matin. Bon, bah, j'espère que c'est revenu. Je m'en excuse, mais c'est vrai que j'ai pas de retour moi de YouTube de mon côté. Quelques frises, ok. Bon, bah, si c'est des frises, c'est pas non plus dramatique, je m'en excuse. Voilà, donc je veux pas faire de jugement, c'est une enquête, il n'y a encore aucune information qui a été confirmée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a bien un article et une enquête menée par The Information qui a été faite, et en même temps, Andy Rubin a annoncé son départ, ou en tout cas son retrait de la société pour une durée indéterminée et pour raison personnel. Surtout avec la vague de harcèlement sexuel que l'on entend un peu partout, si en plus il y a des soupçons sur lui, ça pourrait évidemment déteindre sur la société Essential et donc potentiellement porter un grave préjudice à la société. Donc pour l'instant, on n'a pas d'informations, on ne va pas non plus trop s'échauffer sur le sujet. On en saura probablement un peu plus prochainement. On vous tiendra évidemment au courant sur ce sujet-là. Et en tout cas, ben, Essential, ce qu'on peut dire, est dans une situation particulièrement délicate. Voilà, on s'inquiète un petit peu quand même pour le futur du smartphone et de l'écosystème qu'il souhaitait construire autour et développer autour. On verra ce qu'il en est quand on aura plus d'informations et peut-être quand Andy Rubin se sera un peu plus exprimé sur le sujet. Voilà pour la news. On va enchaîner avec YouTube et sa version des stories. Oui, désolé, hein, je m'excuse encore pour les problèmes de coupure. Son départ suffit pour faire perdre de la valeur. Tout à fait, Pascal. Tout à fait, Pascal, comme je le disais, Andy Rubin est le papa d'Essential et la figure de crédibilité qui apportait la crédibilité à la société et qui intéressait les investisseurs. Pourquoi les investisseurs ont accepté de parier sur Essential, c'est aussi grâce à Andy Rubin. Donc le fait qu'il quitte et qu'il se retire de la société est particulièrement inquiétant pour Essential et met en danger évidemment le bon développement et le futur de la société. C'est ça qui est embêtant. Merci, juste vertige. Bonne journée à ceux qui nous quittent. J'enchaîne avec YouTube, ça devrait quand même pas mal vous intéresser dans la chatroom. Moi, ça m'a intéressé. Alors, on parle de stories, que ce soit chez Snapchat, chez Instagram, etc. On en parle un peu partout à toutes les sauces. Et maintenant, c'est YouTube qui va proposer sa propre version des stories. Donc, ces petites vidéos auparavant éphémères, en tout cas pour certaines plateformes éphémères, que vous filmez avec votre smartphone ou vous donnez un aperçu sur votre vie, du backstage, etc. Bref, que vous pouvez partager avec votre communauté, plus particulièrement avec votre cercle d'amis, mais aussi avec votre communauté de followers, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? YouTube va proposer le même concept qui va s'appeler Reels. 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 Là, la spécificité, pardon, de Reels, donc ça sera un onglet séparé dans l'application. Donc, ceux qui ne sont pas du tout intéressés par ce type de contenu ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas les retrouver dans votre home YouTube ou polluer l'application un peu partout. YouTube ne va pas, dans un premier temps, vous imposer les Reels au quotidien. Vous allez avoir une tab qui va être, un onglet qui va être dédié. Ils ne vont pas disparaître après 24 heures, donc ils vont rester. Surtout, les utilisateurs vont pouvoir avoir plusieurs types de stories. Aujourd'hui, la plupart des plateformes, qu'est-ce qui se passe? C'est chaque utilisateur a une story dans laquelle il va poster ses vidéos et vous les regardez à la suite. Alors, si vous avez plusieurs thématiques, eh ben, vous mélangez un peu tout, quoi. Vous pouvez mélanger à la fois le backstage, je prends par exemple Naotech TV, par exemple. Imaginez Jérôme qui fait sa story, il va à la fois vous faire du backstage de la chaîne, des tournages de Naotech TV, mais il va aussi vous partager la nourriture sur laquelle il a craqué dans un restaurant, ou il va vous partager des photos de lui rigolotes lors des soirées. Bref, il va vous partager plusieurs aspects, à la fois des aspects personnels, plus pro, plus public de sa personnalité et de sa vie. Donc tout sera mélangé. Ici, YouTube va proposer de pouvoir classer vos stories en thématiques. Donc je trouvais ça assez intéressant pour des personnes qui ont plusieurs casquettes. Par exemple, moi j'ai un blog de musique, je participe sur Naotech, je bosse aussi chez Dailymotion et puis j'ai l'aspect perso potentiellement. Je pourrais très bien créer une story dédiée un petit peu à chaque aspect de ma vie. Ma passion concernant la musique, ma passion concernant les nouvelles technologies avec Naotech TV ou ma passion avec mes collègues et le design chez Dailymotion ou en général, et avoir chaque story qui est différenciée par catégorie. Et donc, ça me permettrait aux utilisateurs qui sont intéressés par l'un de ne pas être pollués par l'autre. Donc, je suis pas très rigolote en soirée. Mais de quoi vous parlez? Donc moi je trouvais ça assez intéressant comme aspect de pouvoir catégoriser comme ça et pouvoir qualifier les différentes stories dans certaines catégories. Je trouvais ça assez cool. Trop bien, vous avez l'air assez intéressé quand même. Donc moi, je suis assez excitée par l'annonce. Je vais vous montrer un petit peu une démo. Alors attendez. Est-ce qu'il s'anime? Il ne veut pas s'animer quand je grossis. Ok. Donc, on va le laisser comme ça jouer. Comme ça, là, vous voyez l'animation. Donc là, vous voyez différentes catégories de stories dans lesquelles vous pouvez choisir de poster la vidéo que vous venez de faire. Vous avez les classiques filtres, inscriptions, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils prennent avantage aussi de la plateforme YouTube, c'est-à-dire que vous pourrez faire le lien entre vos vidéos YouTube et vos stories. Par exemple, imaginez Jérôme qui a fait une stories sur son interview Shadow, parce qu'il est allé à la conférence de presse en début de semaine Shadow et il a sorti une vidéo récemment. Et ben, il peut très bien revenir sur une vidéo qu'il avait faite, un petit backstage chez Shadow avec quelque chose d'un peu plus informel et poster cette story dans YouTube et le lier avec la vidéo officielle qu'il a sortie hier sur son interview avec Emmanuel de Shadow. Donc ça peut être super intéressant aussi pour promouvoir le contenu, pour faire le lien entre le backstage de la chaîne et les vidéos plus officielles. Donc moi, je trouve que l'aspect est vraiment intéressant et notamment pour des outils de communauté avec vous pour mieux communiquer, plus besoin de se rendre sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter et compagnie. YouTube, là, propose quelque chose pour renforcer la communauté et la communication avec sa communauté pour une chaîne YouTube. Donc je trouve que c'est très, très, très malin, très bien joué YouTube. Ça risque bien marcher et être très très utile. En tout cas pour nous, on va vite le tester quand ça sera disponible. Et là c'est le fail parce qu'en fait c'est pas encore disponible. Donc il faudra être un petit peu patient, mais on vous tiendra au courant lorsque on pourra utiliser la fonctionnalité. Voilà, en tout cas moi je suis carrément convaincue par ça. Est-ce que vous avez des réactions sur le sujet? Je sais pas comment réagir, trop de stories dans tous les sens. Ouais, alors moi j'ai complètement délaissé Snapchat, hein. J'y vais très très rarement, de temps en temps parce que j'essaye de voir de temps en temps, ouais, parce que j'essaye de m'inspirer du fonctionnement de Snapchat, mais j'y vais pas personnellement en fait. C'est plus de la veille techno que je fais que de l'usage réel. Je regarde de temps en temps les stories Instagram, c'est le seul que j'utilise. Adrien, c'est pas encore disponible hein, dans l'application. Les Reels sont pas encore disponibles. C'est en test, en phase de test pour l'instant, pour un petit groupe d'utilisateurs. Donc tu ne vas pas le trouver. Il va falloir patienter un petit peu. Bienvenue à toi, Anoudev, si tu es nouveau parmi nous. Bienvenue. Voilà pour l'annonce YouTube. Et du coup, vu qu'on parlait des stories, on va enchaîner évidemment avec les stories Snapchat. Super transition. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les utilisateurs Snapchat, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup dans la chatroom parce que je sais que la plupart d'entre vous n'êtes pas particulièrement fan de Snapchat. Mais comment ça se passe avec Snapchat? Eh bien, en fait, vous avez trois pages. La première sur laquelle vous arrivez quand vous ouvrez l'application. La première qui est donc du coup la caméra pour enregistrer ou prendre en photo directement pour créer du contenu, votre contenu. Ensuite, vous avez l'onglet à droite qui est plutôt la partie Discover, là où vous allez retrouver les marques avec leurs propres stories et où vous allez retrouver aussi les stories de vos amis. Ici, là. Et puis ensuite, à gauche, vous allez pouvoir retrouver le chat avec vos amis, les différents messages, etc. Là, voilà, vous avez les trois panneaux. Merci pour le ban, hein, il était bien senti. Vous avez les trois panneaux pour avoir les différents types de contenus. Et en fait, ces trois panneaux étaient un petit peu étranges parce que, en fait, d'un côté, vous avez quelque chose qui est exclusivement dédié à vos amis et à vos connaissances, hein, vos amis. Comment vous qualifiez vos amis? C'est les personnes qui vous suivent en retour. Vous suivez des personnes et ils vous suivent en retour. C'est comme ça que Snapchat qualifie aussi les amis. Et de l'autre côté, vous avez un espace qui mélange à la fois les marques et les stories de vos amis. Donc du coup, c'est plutôt assez confus ici, dans cet endroit-là. En même temps, ça permet aussi de monétiser, parce que du coup, vous êtes d'abord drivé par vos amis qui ont leurs stories dans cette page droite, dans cet écran-là. Et ensuite, par la même occasion, vous voyez les stories des marques qui potentiellement peuvent vous intéresser. Donc c'est plus facile de vous attirer dans ce lieu en premier temps. Là, qu'est-ce que va faire Snapchat? Eh bien, tout simplement, ils vont définir les endroits en fonction du public. Donc en fait, le panneau de droite, va être dédié à vos amis, que ce soit les stories, le chat, etc. Toutes les communications liées à vos amis sera à droite. Et puis non, à gauche, pardon. Hop, 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 à gauche. Excusez-moi, hein, je m'emmêle les côtés, mais là où il y a le chat Snapchat, vous retrouverez les stories de vos amis. Et là où il y a les stories des marques, vous ne trouverez plus que les stories des marques. Vous ne trouverez pas les stories de vos amis. Là, ils ont vraiment clairement identifié les espaces en fonction des personnes qui interagissent dessus. droite, gauche, je vous laisse gérer. Mais en tout cas, vous avez un panneau dédié à vos amis et un panneau dédié aux marques. C'est quand même un sacré changement pour Snapchat, car comme je le disais, ils ne vont plus pouvoir compter sur l'attirance des stories de vos amis pour potentiellement vous convaincre de regarder les stories des marques là où il y a de la monétisation. Donc c'est assez risqué. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? C'est qu'ils vont mettre de la pub aussi entre les stories de chacun de vos amis. Donc qu'est-ce qui va se passer aussi? C'est que vous n'allez plus avoir la possibilité de regarder l'intégralité des stories dans une seule timeline sur Snapchat. Il va falloir que vous acceptiez à la fin de la story d'un ami sur laquelle vous avez cliqué. Vous aurez un écran de fin qui vous tease un peu la prochaine stories et il va falloir cliquer dessus pour lancer la stories prochaine. Donc il y a aussi un changement de fonctionnalité. Donc il y a une meilleure compréhension des espaces, l'un espace personnel et l'un espace public marque, mais après à voir qu'est-ce que ça va faire par rapport à la monétisation de l'application, c'est quand même un sacré risque. Pour Snapchat, évidemment. Même s'il y a une meilleure définition des espaces, c'est potentiellement un petit peu dangereux. Il va y avoir aussi une détection de votre cercle d'amis proches. Il va y avoir un algorithme qui va définir vos amis, vos meilleurs amis, entre guillemets. Un algorithme qui va pouvoir définir avec qui vous dialoguez le plus, avec qui vous échangez le plus, et qui va du coup classer les messages en fonction de votre proximité avec la personne. Donc ça, c'est aussi intéressant pour mettre en avant les messages. Et puis là, la dernière question, c'est comme je disais, les marques et les amis, la différence, c'est pour définir si c'est un ami, il faut que la personne vous suive en retour. Vous devez la suivre et elle vous suit en retour. Qu'est-ce qui va empêcher que les marques, pour être plus visibles auprès des utilisateurs, suivent en retour en masse les utilisateurs pour pouvoir aller dans l'autre onglet? C'est un peu le risque. Donc à voir comment ça sera utilisé, à voir si Snapchat ne va pas trouver une autre solution pour définir la notion d'amitié et de marque. À voir. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Une vraie évolution pour Snapchat. Je vous montre un petit peu l'aperçu du changement de l'application. Donc là, vous voyez la liste de stories et là, vous voyez un petit peu le changement entre les stories qui sont directement accessibles en haut et le cercle d'amis proches et les autres. Voilà. Les best friends et les recents, qui vous permet de contacter très facilement vos amis proches. Alors, il y a eu une coupure. Alors, vous avez peut-être pas vu, vous avez peut-être pas vu le screenshot que je vous ai partagé. Je vous le remontre au cas où. Voilà. Est-ce que vous me recevez dans la chatroom? Ok, 5 sur 5. Donc, je remonte les screenshots au cas où s'il y a une coupure au moment où je montrais. Désolé, Cal, hein, qu'il y ait trop de coupures. Donc là, vous voyez bien les stories, vous voyez bien l'onglet Best Friends et puis ensuite tous les recent. Donc, voilà comment ils mettent en avant, les Best Friends ici. Voilà pour Snapchat. Voilà pour la news. On dit merci à se faire. Ouais, tout à fait. Je sais pas quoi dire, j'en peux plus laisser faire. On me promet que ça va s'arranger et évidemment ça s'arrange pas. Enfin bon, c'est pas comme si vous payez le service chaque mois. Hein. Vous payez pour avoir un réseau de merde. Les petits génies, les best friends, c'est ceux avec lesquels tu interagis le plus. C'est un algorithme. Alors, je ne vais pas pouvoir te dire en détail comment est construit l'algorithme, car évidemment, c'est secret, hein, c'est Snapchat qui bosse dessus. Mais en tout cas, ils ont mis au point un algorithme qui permet de définir quels sont tes best friends. Donc, potentiellement, la régularité des interactions avec cette personne-là peut être un critère, mais je n'ai pas le détail. SFR, c'est le pire opérateur existant. C'est hallucinant le manque de compétences dans cette entreprise. Ouais, et je peux vous dire que ce n'est pas par choix que je suis chez SFR. Et que le jour où j'ai la fibre qui vient dans mon immeuble avec un autre opérateur, je sauterai sur l'occasion. Voilà. On enchaîne avec Instagram. J'aurais du mal à switcher Instagram à Snapchat, ouais. Ta mère qui te harcèle va passer en best friend sur Snapchat. J'imagine, ouais. Mélanie. J'enchaîne avec Instagram. Instagram, oui, je suis dans Paris intramuros, tout à fait. Mais bon, il y a des zones blanches hein, dans Paris. Il n'y a qu'à voir là où je travaille actuellement. Je ne capte même pas le réseau cellulaire. Donc, c'est pour vous dire, je suis dans un espèce de bunker toute la journée. Au moins, on ne risque pas me déranger et je ne risque pas être perturbée par des appels ou quoi que ce soit. Bref, j'essaye d'enchaîner avec Instagram. Instagram qui teste pas mal de nouvelles fonctionnalités. Donc, attention, rien n'est sûr d'arriver sur Instagram. Ce sont des tests. Ils sont en train de tester avec de l'A-B testing, des petits cercles d'utilisateurs pour voir si ça fonctionne ou pas. Et donc, ils sont en train de tester pas mal de choses. Et donc, on parlait notamment de Snapchat qui proposait d'avoir une fonctionnalité Best Friends. Eh ben, Instagram bosse un peu sur la même chose, d'avoir votre cercle d'amis proche. Donc là, on a quelque chose de très, très, très similaire. C'est logique, ils travaillent un petit peu sur la même chose et c'est la problématique qu'on a sur Twitter, Instagram, Snapchat, etc. C'est que plus on utilise, plus on a de personnes qui nous rejoignent et on se retrouve avec une abondance de contenu qui du coup nous décourage potentiellement à consommer le contenu sur la plateforme. On a la flemme de voir toutes les stories, on n'a pas le temps de tout rattraper, etc. Et donc du coup, pour pouvoir éviter d'avoir une chute dans le taux d'usage de l'application et le temps d'usage de l'application, eh ben, il va falloir trouver des parades pour pouvoir vous rassurer et ne pas vous donner une impression d'infini, de contenu infini, qui est toujours un petit peu le problème sur Internet, c'est qu'on est, enterré sous le contenu qu'on a, que ce soit dans les flux RSS, que ce soit dans les informations, les mails, etc. YouTube, Facebook, avec ses feeds, ses flux d'actualité infinis, qui a en fait créé une certaine angoisse chez nous, où on n'a jamais l'aspect rassurant et la récompense d'avoir fini. Et ce qui crée toujours une frustration et une fatigue cognitive assez importante. Et donc là, pour empêcher cet aspect-là, on essaye de filtrer les stories ou le contenu par le cercle d'amis le plus proche. Donc c'est une des astuces. Et donc on a aussi la possibilité de rechercher des hashtags ou des emojis, donc une possibilité de recherche. Pourquoi est-ce que les grosses marques travaillent toujours sur les mêmes choses avant même que ça sorte ? Objectif critique, en fait, c'est assez logique. C'est assez logique. Il se trouve que ce que je viens de mentionner, c'est des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ils ont des similarités, ils ont des différences, mais ils ont aussi beaucoup de similarités. C'est pour lequel va réussir à pouvoir retenir le plus ses utilisateurs, avoir la plus grosse base d'utilisateurs. Et il y a évidemment des comportements de masse qui sont cohérents cross-service. Donc, il y a aussi l'évolution des usages. Et si tu t'adresses à la même cible d'utilisateurs, la même tranche d'âge, la même culture, eh ben, il va y avoir des grosses similarités en termes de comportement. Donc, le fait qu'ils bossent sur les mêmes fonctionnalités, c'est assez logique parce qu'ils ont ciblé les mêmes évolutions de comportement. C'est de la recherche, hein. Ils font pas ça en essayant de sentir le sens du vent. Hein. Il y a vraiment des recherches comportementales qui sont menées et du coup, c'est très très logique, c'est plutôt rassurant qu'ils vont dans le même sens, c'est qu'ils aboutissent un peu aux mêmes conclusions. Voilà. Et c'est pour ça aussi que sur les plateformes vidéo, il y a des fois, il y a des similarités, il y a des choses qu'on sait qui marchent, des choses qui sont tellement passées dans l'adoption de masse qu'on ne peut pas le challenger tant qu'on voudrait. Donc, il y a plein de contraintes, hein, là-dessus. C'est passionnant. Et donc, en nouvelle fonctionnalité, il y a aussi la possibilité de suivre des hashtags. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Et une des fonctionnalités, et je pense qu'elle était pas mal attendue, c'est la possibilité de repost. Donc, je pense que ça vous est déjà arrivé de voir un post Instagram et de vouloir le partager, le repartager avec vos propres utilisateurs, soit parce que vous vous approuvez, soit parce que vous voulez étendre le partage de ce poste-là avec votre propre cercle de followers. Bref, voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on voudrait repartager. C'est comme sur Twitter avec le retweet ou sur Facebook quand on souhaite repartager le poste de quelqu'un. C'est une fonctionnalité qui est connue, reconnue et très utilisée aujourd'hui. Voilà, Noob, tu vois, tu le dis toi-même, le retweet. Exactement. C'est très, très similaire. L'un, tu retweets un tweet, l'autre, tu repostes un post Instagram, tout simplement. Et donc, c'est une fonctionnalité qui était très demandée par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs depuis pas mal de temps. Instagram n'avait jamais cédé jusqu'ici. Donc, du coup, il y a d'autres applications qui se sont proposées d'utiliser ce manque de fonctionnalité dans Instagram pour pouvoir sortir leur propre application qui vous permettait de faire des reposts Instagram directement dans l'application. Et bien là, a priori, il y aurait donc cette fonctionnalité qui serait en train d'être testée, pardon, directement dans Instagram, dans l'application, avec une petite double enveloppe qui permet de reposter un post Instagram. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir dans la chatroom. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous aimeriez utiliser, vous, sur la plateforme ? Grave, Insta invente le retweet en 2018. On n'est pas... Je vois l'ironie de la chose et ça vous fait sourire parce que c'est pas nouveau. La question, c'est pas forcément le premier à faire la fonctionnalité, c'est celui qui a gagné. Non. Encore une fois, si c'était le cas, Android aurait gagné la guerre des smartphones et de l'OS depuis longtemps. On voit bien que c'est pas le premier qui sort la fonctionnalité qui gagne. C'est celui qui l'intègre de la meilleure manière aussi et qui sait le mieux le vendre. Voilà, donc, désolé pour le petit pic Android, ils font des choses extrêmement bien et c'est très intéressant ce qu'ils font, mais c'est pas parce qu'on le sort en premier qu'on est le meilleur. Voilà. Donc arrêtez avec cette espèce d'ironie tout le temps, ah ben oui, non, mais on connaît déjà, etc. C'est pas parce qu'on connaît déjà que c'est pas intéressant. C'est aussi une évolution. Quand je bossais en agence, j'aurais adoré, là je vois plein d'utilité, mais perso, pas sûr de beaucoup l'utiliser. Ok. Il vaut mieux faire plus tard, mais bien que vite. Oui, enfin voilà, l'innovation c'est intéressant, il y a l'exploration qui est très intéressante et qui est cruciale pour tout produit, et puis après il y a la qualité de réalisation derrière aussi. Déjà, le partage du live sur Insta, j'aime beaucoup. Quelqu'un explique à Marion SVP. Android 80% des smartphones. Oui, alors le taux d'adoption noob, le taux d'adoption des smartphones ne veut pas forcément dire le taux de satisfaction non plus. Hein. On pourra reparler de ça. Hein. Il y a aussi le prix, l'accessibilité, etc. Et puis il y a les différents pays. Ça fait beaucoup. T'inquiète, je connais pas mal le sujet quand même. Il y a la marge hein, qui est importante, noob. Bref, c'est un long débat. Et on ne peut pas dire l'un a gagné ou l'autre a pas gagné. C'est compliqué, quoi. En voilà. Bref, il y a deux aspects. Il y a à la fois l'innovation qui est cruciale et qui est très, très importante. Et là, Android est très, très fort là-dessus. Et puis, il y a aussi la qualité de l'expérience et de la cohérence sur la plateforme. Dailymotion, premier sur la vidéo et YouTube est leader. Je ne suis même pas sûre que Dailymotion était vraiment, vraiment premier. Je ne sais plus parce que ça s'est joué à quelques mois. Donc là, on ne peut même pas parler de l'un est sorti avant l'autre. Parce qu'en fait, la date a été tellement proche entre YouTube et Dailymotion que tu vois, on ne peut pas vraiment dire c'est la coïncidence ou la convergence d'une envie Internet où il y a eu la consommation de vidéos quelque part, quoi. Je suis même pas sûre que ça s'applique à ça. Oui, noob, si tu veux. Tu veux pas lâcher, c'est pas grave. On aura d'autres opportunités de discuter sur le sujet, mais là, TechScope, c'est pas forcément le lieu pour discuter. Voilà pour cette fonctionnalité qui va du coup tuer pas mal d'applications qui permettaient de faire le repost. Voilà. Donc on enchaîne. Je pense que vous avez vu cette news. Je ne sais pas si Jérôme l'a traité, donc n'hésitez pas à me le dire dans la chatroom. Je voulais revenir un petit peu sur le hack de Mac avec macOS iSierra, pas le hack mais en fait la faille, je sais pas pourquoi j'ai parlé de hack, mais la faille qui a été dévoilée dernièrement, donc là je change de sujet, hein. La faille qui a été dévoilée cette semaine et qui a priori donc Apple n'a pas été prévenu en avance et donc du coup ça a été quand même j'ai l'impression, ou en tout cas c'est ce qui a semblé, ils n'ont pas été prévenus et donc ça a été une surprise pour eux, la possibilité de pouvoir se loguer et créer un compte admin très facilement sur un Mac qui n'est pas le vôtre. Si vous aviez un accès temporaire à un Mac à un moment donné, vous pouviez très facilement vous créer un compte admin avec un root sans avoir à saisir de mot de passe et donc tout simplement il suffisait de taper root en username et ne pas saisir de mot de passe et ça marchait et du coup après au moment du login sur macOS iSierra vous n'aviez même pas besoin de saisir le mot de passe. Donc de nouveau si on n'a pas accès à une session on ne sait pas faire le fail. Oui Chris, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut avoir accès à la session ouverte à un moment donné pour créer la faille. Tout à fait, tu as tout à fait raison de le signaler, Chris. Après, chacun est responsable de son ordinateur et on le sait particulièrement au travail. Chacun est responsable de son ordinateur et de verrouiller son ordinateur à chaque fois qu'on n'est pas en face. Tout à fait. Mais quand même, il s'agit quand même d'une faille et donc qui était quand même assez problématique. Merci beaucoup Pascal pour ma blague déplacée. J'ai pas vu ta blague Pascal, mais je suis sûre qu'elle était bien. Tu me dis qu'elle était déplacée, mais c'est pas grave. Voilà. Donc merci à toi. Et donc tout simplement, bah voilà, Apple, dès qu'ils ont été au courant, ouais, au travail, si tu laisses ta session ouverte, tu payes les croissants le lendemain matin. On fait exactement la même chose chez Dailymotion, Mendel. Je peux vous dire qu'on a souvent des croissants le matin, en toute bonne ambiance. Et donc, ce que je voulais dire, c'est donc Apple a travaillé très très vite. Ah, il a fait une blague sur Dailymotion. Pas de souci, je te pardonne, on en fait beaucoup. Et donc, ils ont corrigé la faille. Et donc, c'est bon, hein, ils ont release, ils ont déployé du coup le patch qui permet d'empêcher hein, cette faille avec le root. Du coup, ils ont déjà publié la mise à jour. Donc, normalement, ça se met à jour, je crois, automatiquement. Alors, moi, je n'ai pas encore mis à jour avec macOS iSierra, donc je ne sais pas, je n'ai pas encore fait l'expérience. Mais n'hésitez pas à me dire dans la chatroom si vous avez déjà constaté. Le patch. J'aurais dû faire un super chat vu que j'ai eu Marion en lui demandant ce qu'était Naotech et qu'elle m'a répondu. Ah oh oui, non, mais Sultan. Ah oui, mais je me disais que tu étais un habitué aussi. Tu m'as fait la blague en me demandant ce qu'était Naotech. Je me disais aussi que tu es un habitué que c'était bizarre que tu me demandes ce que c'était. C'est sûr qu'il faut avoir un certain sens de l'humour pour travailler chez Dailymotion. Ha ha ha, je sors. Oui. En même temps, je vais te dire, c'est quand même plus intéressant de travailler sur un produit sur lequel il y a de quoi travailler que sur un produit grand public déjà largement adopté. Chaque aspect a ses challenges aussi. Et moi, j'étais à un moment de ma carrière, quand je suis partie chez Dailymotion, où j'avais envie d'un vrai challenge et pas forcément d'une position confortable dans une société établie et leader sur son marché, même si. Encore une fois, vous rigolez de Dailymotion, mais c'est pas n'importe quoi non plus. Mais je sais que ça fait sourire pas mal de monde, mais professionnellement, c'est un challenge très passionnant. Mais après, chacun son avis. Voilà. Voilà pour le patch. Et j'ai un peu dérivé sur Dailymotion parce que je vois pas mal plaisanter. Surtout pour une youtubeuse. Bah, c'est un avantage, hein. C'est que j'ai une bonne connaissance aussi des autres plateformes, parce que je suis aussi une fervente utilisatrice de Netflix aussi. Dernier article, et c'est très très rapide, c'est une brève, et je pense que ça va réjouir les personnes qui voyagent à deux roues, sur moto ou scooter, c'est l'application Waze. Alors je sais qu'on avait des utilisateurs là dans la chatroom, on en avait un qui avait partagé le fait qu'il utilisait l'application Waze pardon, qui est très très adoptée hein, chez les conducteurs, qui permet donc, c'est une application de GPS et d'optimiser les temps de trajet avec des routes alternatives. Et de prévenir des ralentissements, etc. Donc très très pratique. Et là, ils ont juste fait une petite mise à jour qui va pas mal. C'est une boîte avec beaucoup de beaux projets, tout à fait Sylvain. Et qui va faire plaisir aux motards et aux conducteurs de scooters, ils ont mis un petit paramètre qui vous permet tout simplement de choisir de quelle manière vous voyagez. Si vous voyagez en 4 roues, en 2 roues, etc. Et donc ça paraît. Ou en taxi, etc. Donc ça paraît anecdotique, mais en fait, tout simplement, ça va permettre encore plus d'optimiser le trajet pour les deux roues, parce que tout simplement, il y a des voies qui sont trop étroites pour que les voitures puissent voyager et les utiliser tout simplement. Par contre, les deux roues, les deux roues pourront utiliser ces voies trop étroites, et donc ça va permettre potentiellement de recalculer les temps de trajet et les trajets proposés, les trajets optimisés proposés pour les deux roues. Donc c'est plutôt une très bonne fonctionnalité, une très bonne amélioration qui va faire son arrivée sur Waze. Donc ça va pas mal réjouir, je pense, les utilisateurs de l'application. Et ça va potentiellement pas mal convaincre les motards d'utiliser Waze potentiellement. Donc très très bonne évolution pour l'application. Oui, en campagne, m'a conduit plusieurs fois dans des champs. C'est le problème, c'est que la campagne, il y a potentiellement moins de données et moins de précision. C'est toujours le problème, hein. Et il est 8h59, c'était le dernier article, Marion toujours à l'heure. J'utilise Waze pour les notifications de travaux ou ralenti, mais j'avais que Google Maps estime toujours pas parfaitement la durée. Google Maps estime mieux la durée à ton sens que Waze. D'accord. Bonne information. La campagne, c'est pas la vraie vie. autre polémique que lance Noob. En fait, tu devrais venir à un Now Take a Drink et je suis sûre qu'on aurait des débats passionnants ensemble. Je ne sais pas si on a eu le plaisir de te rencontrer lors d'un Now Take a Drink, Noob, mais vu le genre de polémique que tu lances, ce serait assez passionnant de débattre avec toi lors de ces soirées. Ce serait assez rigolo, je pense. Tu étais caché. Mais il ne faut pas te cacher comme ça. Il faut directement donner l'ambiance. Tu as vu, hein, on aime bien troller aussi lors des Now Take a Drink. Et on a plus de temps et plus d'espace et plus facile en vis-à-vis de troller dans la bonne humeur lors de ces rencontres IRL. Now Take a Drink à la campagne, le combo. On a essayé, alors on en a fait un au Pays Basque, on n'était pas dans la campagne puisque c'était à Saint-Jean-de-Luz, mais on n'était pas dans la grande ville non plus. D'ailleurs, c'était super sympa parce qu'on était en petit comité, comme à Cannes d'ailleurs, on était en petit comité, et du coup, ça change aussi l'ambiance. Je pensais qu'à terme, Google Maps et Waves fusionneraient d'une manière ou d'une autre. Bah écoute, ça pas encore, ça c'est pas encore fait, ouais. Ça c'est pas encore fait. Je pense qu'après Waze a quand même une grosse communauté. Et même d'ailleurs si Google l'a racheté, hein, enfin Alphabet l'a racheté à l'époque pour 966 millions de dollars, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore fusionné le service. Encore une fois, c'est peut-être lié à la grosse communauté de Waze. Je pense que Waze, c'est la version dev et Google Maps, la version prod. Ah, tu crois? C'est potentiellement, ouais, peut-être. Google Maps, c'est tellement grand public aussi et c'est pas forcément exactement le même usage. Alors, on passe pour les questions de fin de Techscope. Donc, vous pouvez me poser n'importe quelle question. Je me réserve le droit d'y répondre ou pas, hein. Évidemment. C'est moi qui commande. Je rigole. Donc, je vais répondre à vos questions. À part pour le taf, dans ta vie, tu utilises Dailymotion? Oui, j'utilise Dailymotion parce que du coup, pour des raisons de test, pour des raisons de connaissance du produit, j'utilise Dailymotion, bien sûr. Et parce que j'ai une connaissance du contenu qui est sur la plateforme, donc j'ai mes chaînes préférées, etc. Donc oui, j'utilise Dailymotion aussi. J'utilise les deux. J'utilise Chromecast, j'utilise Netflix. Celui que j'utilise le moins aujourd'hui, c'est Amazon Prime vidéo, pour être honnête. Tout simplement parce qu'il n'est pas compatible Chromecast aussi. Donc ça bloque aussi pas mal mon usage. Alors, je remonte un petit peu dans vos questions. Ça t'apporte quoi de plus que YouTube? Tu peux télécharger les vidéos notamment pour quand tu n'as pas de réseau. Donc ça, c'est une fonctionnalité que j'aime bien. Et c'est pas la même expérience après. Tu n'as pas forcément exactement le même contenu. Je sais que les fans de sport, etc. Utilisent pas mal Dailymotion parce qu'on a pas mal de contenu sport. Alors, j'essaie de lire. Dailymotion, ça lui rapporte un salaire alors que YouTube, même pas un dixième de SPIC. Ah oui, non, mais autant vous dire que je ne me rémunère pas ni sur les revenus publicitaires, ni sur le Tipeee. Hein. Moi, je bosse trop peu pour la chaîne Naotech pour me rémunérer. Et en plus, ce n'est pas la priorité, puisque la priorité, c'était plutôt des personnes qui bossent, qui sont plus impliquées sur la chaîne, à savoir à temps partiel avec une aide. Donc, c'était, à l'époque, c'était Karina. Là, on recherche un autre profil. Et puis ensuite, c'est Jérôme qui, lui, bosse à temps plein. Moi, je fais quelques techscopes et j'essaye d'aider Jérôme quand je peux. Mais je ne suis pas suffisamment engagée. Et on ne peut pas se le permettre pour l'instant. On n'a pas atteint un palier suffisant pour pouvoir me rémunérer. Et puis j'aime mon travail aussi. C'est quand même important. ensuite, quelles sont vos questions? J'ai pas vu hein, de questions Platinium. Samuel, tu n'hésites pas à me dire. N'oubliez pas de remercier Whisky, le coproducteur de Naotech. Je sais pas, Jérôme, on n'a pas encore eu de nouvelles news sur le streaming Disney parce que la plateforme est en train d'être construite. Elle va pas sortir en 2018, hein, je pense, ou peut-être fin 2018, mais a priori, ça serait plutôt 2020, d'après ce que j'ai entendu. Il y a quoi comme bonne chaîne sur Dailymotion? Alors, je ne vais pas utiliser le FAQ pour faire la promo de Dailymotion. Je vous encourage tout simplement à télécharger l'application pour tester par vous-même. Amazon Prime Video ne sera jamais compatible avec Chromecast. Je ne suis pas aussi définitive que toi, Ludovic. Pas aussi définitive. As-tu l'iPhone X? Si oui, en es-tu satisfaite? Ben, je fais le live avec mon iPhone X et oui, j'en suis très satisfaite. En même temps, je voulais retourner sur l'iPhone et je voulais avoir la dernière génération. Et j'aime beaucoup la navigation uniquement par gesture et ne plus avoir besoin du bouton Home. Mais c'est aussi l'aspect, le fait que je sois designer qui m'a convaincue aussi de prendre l'iPhone X. Habites-tu loin de chez Jérôme? J'habite à 10 minutes à pied, donc non, pas très loin. Ton iPhone X est de quelle couleur? Moi, je ne l'ai pas blanc, justement, je l'ai en dark grey. Peux-tu me le montrer? J'ai peur de regretter. Ben, je ne vais pas pouvoir te le montrer dans tous les cas parce que c'est avec celui-là que je fais le live. Donc, je ne peux pas te le montrer. Mais j'ai le même que toi. Si tu as pris le noir, j'ai le même que toi. Et pour avoir vu le silver, il est beaucoup plus classe en noir. Le silver est beaucoup trop shiny. Il brille de mille feux. Alors après, si tu aimes les choses qui brillent beaucoup, en effet, le silver brille beaucoup plus. Mais bon, voilà. Après, je sais que Jérôme préfère le silver. Je ne vais pas répondre à toutes les questions concernant Dailymotion parce que ce n'est pas le lieu, etc. Et si vous souhaitez en savoir plus, il y a toute l'information sur le site Dailymotion que vous pouvez trouver si ça vous intéresse. Je vous invite à aller vous renseigner. Vous avez les FAQ, vous avez les informations pour les partenaires, etc. N'hésitez pas à vous y rendre si ça vous intéresse. YouTube, il y a aussi la fonction hors ligne. Non. La fonction hors ligne est uniquement disponible sur, avec YouTube Red, donc payant, et pas encore en France. Donc, c'est pas la même chose. Pourquoi n'êtes-vous pas sur Dailymotion? On est sur Dailymotion. C'est le matin Dailymotion. La chaîne Naotech est sur Dailymotion. On n'en fait pas la promotion. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me sers de la chaîne Naotech sur Dailymotion pour aussi tester et avoir le côté partner, avoir une meilleure connaissance du côté partner. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne vous dit pas d'aller vous abonner sur Dailymotion? On ne vous interdit pas d'aller vous abonner sur Dailymotion, mais tout simplement, notre communauté a été construite sur YouTube. Notre communauté est sur YouTube et on ne pourra pas se diviser en 36 lieux. C'est déjà très très difficile aujourd'hui d'être présent pour la communauté quand elle nous contacte à la fois sur YouTube dans les commentaires, à la fois sur Twitter, que ce soit en mention ou en DM, que ce soit en mail, que ce soit par divers moyens, que ce soit par Instagram, parce qu'on a des personnes qui nous contactent à Instagram, sur Facebook, sur la page et compagnie. Et donc on essaye à la fois d'être le plus présent auprès de vous. Il y a aussi le Slack, hein, faut pas l'oublier. On essaye d'être à la fois présent pour vous, de répondre à vos questions, mais en même temps de garder du temps pour produire des vidéos. Et ça devient de plus en plus difficile, hein, on ne va pas vous le cacher, parce qu'évidemment, la chose positive, c'est que la chaîne croît, que la communauté et l'audience croient, donc c'est plutôt bien, c'est même très très bien et on en est très très content et on vous remercie énormément là-dessus. Mais le fait de multiplier les plateformes rend la chose de plus en plus difficile pour nous. Sur Dailymotion, il n'y a pas de commentaires, donc déjà ça nous permet de nous dire, on n'a pas l'inquiétude de se dire on a oublié des commentaires. Mais en tout cas, on ne veut pas diviser la communauté aujourd'hui. Notre communauté, elle est sur YouTube. Et donc, on utilisera YouTube et les outils YouTube. Donc voilà, c'est le rendez-vous et on ne veut pas complexifier notre discours en faisant la promotion à la fois du podcast, parce qu'en effet, vous pouvez écouter le TechScope en podcast, à la fois Dailymotion, parce que vous pouvez, là, ça ne sera pas le TechScope, mais les autres vidéos, vous pouvez les télécharger et les regarder hors ligne avec Dailymotion. On ne veut pas trop complexifier le discours. C'est pour ça qu'on n'en parle jamais. Là, vous me posez la question, donc c'est pour ça que je prends le temps un petit peu de vous en parler. Mais on ne veut pas diviser la communauté. C'est ça qui est important pour nous. J'espère que j'ai répondu à vos questions, en tout cas concernant Dailymotion. Ton Smart Lav est directement connecté avec sur l'iPhone X. Bah non, justement, je ne peux pas. Je ne peux pas à prise jack. Donc j'ai le petit câble de merde Lightning Jack que je déteste, qui me pourrit la vie au quotidien. Et s'il y a un truc que je déteste avec l'iPhone X, c'est ça. C'est ça. Tous les jours, au moins une fois par jour, je prends mes écouteurs et je prends mon iPhone et je suis là, ça rentre pas, il y a un problème. Ah oui, il faut le petit connecteur Lightning Jack et ça m'agace particulièrement. Pour moi, c'est une honte. C'est une honte absolue que Apple fournisse des écouteurs Lightning avec un iPhone qui n'a pas, des écouteurs pardon Jack avec un iPhone qui a une prise Lightning uniquement. Pour moi, c'est un non-sens produit de conception. C'est une faute grave pour moi, mais surtout au prix du téléphone. Mais ça ne m'a pas empêché de l'acheter. Mais c'est la chose qui m'agace au quotidien. Voilà. Est-ce que j'ai raté des questions? Allez-vous créer une chaîne sur Peertube? Je connais pas. Peertube. Sinon, Dailymotion, ça va. Bah, ça va plutôt bien, ouais. Je regrette que vous n'utilisiez pas Twitch. Bah, tu vois, c'est pareil, Twitch. C'est, le problème de Twitch, c'est que c'est orienté très gamer. Et on veut pas se fermer gamer. La plateforme a l'air super, hein, c'est pas la question. Moi, j'essaye aussi d'utiliser un peu Twitch pour me familiariser avec les outils disponibles sur Twitch. Mais on veut pas non plus se diviser. Bonjour à toi, je constate que tu aimes bien Android un peu plus que Apple et Jérôme est mieux Apple. Laurent, je suis pas sûre. Il y a des choses sur Android que j'adore, mais vraiment que j'adore. L'innovation. Si j'ai envie de voir des choses innovantes, qui vont plus loin, qui prennent des risques, c'est Android. Pour moi, c'est ça. La customisation aussi. Chez Android, c'est chez toi. C'est ta maison. Il y a d'ailleurs, Jérôme avait fait une super métaphore entre Windows Phone, Android et iOS. Android, c'est chez toi. Tu customises comme tu veux, t'es bien, t'es à l'aise, quoi. C'est vraiment ton endroit. Mais du coup, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut que tu customises toi-même. Apple, c'est clé en main. Alors, t'as pas trop de choix, mais c'est simple et c'est clé en main et tu t'embêtes pas, quoi. Tu passes pas de temps à configurer. Mais c'est plus fermé, t'es pas complètement chez toi, quoi. Tu loues, si on reprend un peu la métaphore. Il y a des choses que j'adore chez Android et il y a des choses qui vont m'agacer chez Android. Mais la même chose sur iOS. Il y a des choses que je vais adorer sur iOS et il y a des choses qui vont m'agacer. Par exemple, la problématique de la prise Lightning et Jack. Pour le principe et le standard d'Apple, pour moi, c'est inadmissible de vendre et de mettre dans le boîtier de l'iPhone des écouteurs jack alors qu'il y a une prise Lightning. Ça va à l'encontre des principes de base de la conception chez Apple. Pour moi, ils n'ont pas un discours cohérent. C'est comme avoir la prise USB-C sur certains Mac et la prise jack et une prise Lightning ailleurs. Enfin bref, on a un peu tous les connecteurs actuellement sur les produits Apple et du coup, on perd la cohérence des produits Apple. Pour moi, c'est pas possible. Après, je comprends parce qu'il y a d'autres problématiques, marketing, partenaires, etc. Bref, ils ne peuvent pas se permettre de changer tout le temps, tous les 4 matins, les connectiques. Mais voilà. Par contre, chez Android, pour moi, c'est un aspect où je vais être plus, plus ouverte. USB-C, etc. Ça va avec l'innovation chez Android, le fait qu'ils changent peut-être plus souvent de connectique. Pour moi, ça, c'est plus cohérent avec justement l'innovation chez Android. Bref, il y a du bon chez les deux. Voilà, il y a. Tu vois, par exemple, Chromecast. Pour moi, il est inconcevable de prendre une Apple TV. Pourquoi prendre une Apple TV alors que j'ai une Chromecast? Pourquoi apprendre à utiliser une Apple TV avec des applications qui ne sont pas tout le temps hyper optimisées et compagnie, qui ne sont pas forcément toutes disponibles sur Apple TV, alors que sur Chromecast, il faut juste que les applications soient compatibles Chromecast, merci Amazon Prime Video, pour que je puisse l'utiliser. Pour moi, j'adore Chromecast. En plus, le prix, c'est hyper accessible, etc. Voilà, donc il y a des choses que je préfère chez l'un et il y a des choses que je préfère chez l'autre. Mais j'aime les deux. Ah, et Jérôme, c'est pareil, il n'est pas forcément plus Apple, il est assez critique aussi avec Apple. Il est 9h15, je vais très vite arrêter parce qu'il faut quand même que j'aille au travail. J'essaie de voir les dernières questions, j'ai raté pas mal, vous arrêtez pas de discuter là. Alors, je rattrape très vite. Que lis-tu en ce moment? Je lis le livre, évidemment je lis un livre, qui a permis d'adapter la série La Servante Rouge. J'ai perdu le nom. j'ai perdu le nom. Les écouteurs sont Lightning dans la boîte? T'es sûr? Jérôme m'envoie un SMS pour me dire que les écouteurs sont Lightning dans la boîte. Mais, vous voyez, j'ai même pas regardé. La Servante Écarlate, ou quelque chose comme ça, avec la super série qui est sortie, qui a été adaptée du livre. Mais du coup, je lis le livre en anglais actuellement parce que je voulais voir la différence. Les écouteurs fournis sont Lightning, sinon il y a des casques avec la prise Lightning en natif. Ah ouais, bah, tu vois, Jack, je ne savais pas. Sauf que moi, mon Mac, il a une prise Jack. Donc en fait, dans tous les cas, je suis baisée. Enfin, excusez-moi pour le mot, mais dans tous les cas, je suis coincée. Et en fait, je n'utilise pas les écouteurs, comme vous voyez. Mon inculture, le fait que je ne savais même pas que les écouteurs dans la boîte étaient livrés en Lightning. J'étais persuadée qu'ils n'étaient pas livrés en Lightning. Bon, mais merci en tout cas pour la correction. Alors, ensuite, donc j'ai répondu à la lecture. Pourquoi tu dis pas de podcast sur Android? Je sais pas de quoi tu parles. Marion a choisi la bonne couleur iPhone X car elle est secrètement fan de Batman. Je déteste Batman. S'il y a un des super-héros que j'aime pas, c'est Batman. Non, je rigole. Mais j'ai pas aimé comment il a été traité dans les derniers films Batman. Je trouve chiant, tout simplement. Boring. Pourtant, avec le 7 Plus, c'était bien des écouteurs Lightning. Ouais, bah tu vois, Voyage, Schweig, je me suis trompée. Il fournit des écouteurs Lightning. Vous avez raison de me corriger. Il n'y a pas des écouteurs Lightning, tout à fait. J'ai fait 10 minutes sur les écouteurs pas Lightning. Je me suis trompée. Ouais, il me faut des écouteurs Bluetooth. Je pense que c'est la prochaine transition. Mais le problème, c'est que comment on fait quand on est deux et qu'on veut regarder un programme en même temps et que chacun a des écouteurs Bluetooth? Ça veut dire qu'il faut avoir deux paires d'écouteurs. C'est agaçant, mais bon. Ça va évoluer. On est dans une transition. Alors, j'essaie de voir. Ah, quand les stories sur Dailymotion? Bonne question. C'est la première fois que je tombe sur toi en live, c'est trop cool aussi. Bah, contente que ça te plaise, contente que ça te plaise, bienvenue à toi. Peertube est une plateforme décentralisée, voire Framatube. D'accord, merci. Très bien, très bien. Bon, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Je crois que j'ai à peu près rattrapé. Merci Marion, t'as un peu plus de recul sur Apple. À voir, ça se défend. Ok, désolée hein, si j'ai raté des questions. Oh là là. Bon, bah écoutez, c'est bon, je pense qu'elle préfère Thor et sa barbe nordique. J'ai adoré Thor Ragnarok. Dernière information, j'ai adoré Thor Ragnarok. C'est pop à souhait. Du coup, ça utilise tout le penchant pop. Je trouve que c'est une très très bonne direction pour Thor en tout cas. Très très bien joué. J'ai adoré ce que le réalisateur Taiki Waititi en a fait. Taiki Waititi, ou je sais plus son nom exactement. Sur Thor, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir suivi durant ce Techscope. Je vous encourage à mettre un petit pouce up si la vidéo vous a plu. J'ai carrément oublié de rappeler que Jérôme a sorti la vidéo sur le Shadow, l'interview qu'il a fait lors de la conférence de presse en début de semaine. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. La vidéo est disponible sur la chaîne officielle. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et puis, pour Jérôme, retrouvez-le demain matin lors du Techscope à 8h. Très bonne journée à tous et merci encore.